10h21 minutes dans le Point de Max à Boulevard 102.1. Bon mercredi dans le fret à Québec. S'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021, le numéro pour me rejoindre par texto. On a beaucoup parlé dans les dernières années de la fameuse réforme du mode de scrutin. Puis on a l'impression tout le temps, bon, OK, ça va finir par se faire. Puis là, on promet qu'on va le faire, on arrive au pouvoir, hop, on le fait plus. C'est un peu ça le problème. Le parti qui arrive au pouvoir souvent ne bénéficierait pas d'une réforme, fait que ça l'intéresse comme plus. François Legault qui avait déjà dit, il y a personne qui se bat dans les autobus pour la réforme du mode de scrutin. Mais il y en a qui continuent de se battre pour une réforme du mode de scrutin. C'est le cas de Jean-Pierre Charbonneau, qui est un ancien élu, ancien ministre même péquiste, président du mouvement Démocratie Nouvelle, qui publie dans la presse « Réforme du mode de scrutin, il y va de la qualité de notre démocratie ». D'abord, M. Charbonneau, bonjour.
Bonjour.
Vous demandez donc à ce que la question de la réforme du mode de scrutin soit mise à l'avant-plan en vue des élections d'octobre prochain. Ma première question, est-ce qu'il est trop tard ou est-ce qu'on aurait le temps là, de faire les démarches pour qu'une réforme puisse être mise en place?
Bien, c'est-à-dire qu'actuellement, il est trop tard pour l'élection du mois d'octobre prochain, ça c'est évident. Mais ce qu'on propose, ce qu'on dit aux partis, puis actuellement, il y a trois partis importants. Bien, il y a cinq partis sur la scène qui ont 10% et plus d'appui populaire. Et sur ces cinq-là, il y en a trois, le Parti québécois, le Parti conservateur et Québec solidaire, qui ont renouvelé leur engagement à réformer le mode de scrutin puis à introduire un mode de scrutin proportionnel mixte, comme on a en Écosse, en Allemagne ou en Nouvelle-Zélande. Alors, et ça, si le prochain gouvernement le faisait dans l'année qui suit l'élection, on aurait la garantie, et c'est ça que les partis se sont engagés à faire, que la prochaine élection soit la dernière avec le mode de scrutin actuel, et que donc l'élection de 2030 se fasse avec le nouveau mode de scrutin.
Si le Parti québécois prend le pouvoir, est-ce que vous pensez que la prochaine fois sera la bonne pour vrai ou vous avez toujours cette crainte-là que le parti qui prend le pouvoir recule parce que là, je le disais d'entrée de jeu, ben il y a certains partis qui sont peut-être avantagés avec le mode de scrutin actuel. Là, est-ce que vous croyez la parole du PQ?
Moi, j'ai toujours une saine méfiance. J'ai été 25 ans député à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, j'ai vu souvent des gens qui ont renié leurs engagements. Alors, j'ose croire, mais je reste, je ne suis pas naïf. Ceci étant, si un parti qui a intérêt à faire la réforme, c'est bien le Parti québécois. Pourquoi? Parce qu'il veut faire l'indépendance. Et pour faire l'indépendance, ben, il faut que plus que la moitié de la population vote en faveur du pays, ou du projet de pays. Alors, dans le fond, c'est comme si on avait une proportionnelle. Alors, pour faire un pays, ça veut dire qu'il faut développer une culture de la coalition, une culture de l'entente avec d'autres partis. Parce qu'actuellement, c'est pas parce que PQ a 35% du vote, il pourrait prendre le pouvoir avec un pourcentage aussi faible de l'opinion publique qu'il pourrait faire un pays avec ça. Là. Alors, je pense que tout le monde a intérêt à ce que on soit gouverné par un parlement qui représente une majorité de la population. Et si pour ça, on doit faire comme dans beaucoup de pays qui sont très développés et très efficaces, et, d'avoir des gouvernements de coalition qui sont composés de plusieurs partis ou au moins de deux, ben, qu'on aille dans cette direction-là, l'important, c'est que la règle de la majorité soit pas juste la règle de la majorité au Parlement pour voter des lois, mais que ce soit la règle de la majorité pour former un gouvernement. Quand on dit un gouvernement majoritaire, c'est pas juste un gouvernement majoritaire au Parlement, c'est un gouvernement majoritaire en fonction de l'appui que les citoyens donnent aux différents partis politiques.
Monsieur Charbonneau, on a une question intéressante qui, ou du moins une proposition, devrais-je dire, par texto 88-971-101. C'est Félix qui dit « Je sais pas, mais il me semble qu'en ce moment, ce serait le meilleur moyen pour la CAQ de réussir à garder des députés vu les sondages actuels. » Fait que, tu sais, au départ, ma première question, c'était « Est-ce qu'il est trop tard? » Vous avez dit « Bien, c'est sûr que pour la prochaine élection d'octobre, oui. » Mais est-ce qu'il y a quand même un petit pourcentage de chances que la coalition Avenir Québec se dise « Hey, avec un autre mode de scrutin, on pourrait peut-être garder des députés, on va faire ça en accéléré ou vraiment pas pantoute? »
Ben, c'est-à-dire que c'est eux qui avaient promis de faire mieux que tout le monde. Tu sais, François Legault avait dit, moi, je ferai pas un Trudeau de moi-même, je vais être meilleur que René Lévesque, tout ça, et qui, après ça, a abandonné. Ben, ils risquent de payer le prix de leur abandon puis de leur trahison et puis de leur mensonge. Parce que même si... écoutez, on l'a demandé depuis un an et plus à la CAQ, parce qu'on l'a déposé avec les partis politiques, entre autres, les trois partis dont j'ai parlé, un projet de loi à l'Assemblée nationale, mais il n'a jamais été appelé par les leaders du gouvernement de la CAQ pour être étudié. S'il l'avait été, on aurait peut-être déjà à ce moment-là un mode de soutien, et la CAQ aurait peut-être eu la possibilité de sauver les mêmes à la prochaine élection. Mais là, franchement, on est rendu à la mi-janvier, les élections sont le 5 octobre, le directeur général des élections a besoin du temps pour mettre en place une nouvelle façon de voter. Alors, tu sais, je pense qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Sauf que ce que François Legault pourrait laisser comme héritage pour son successeur, ça serait justement de faire adopter la loi. Mais elle ne pourrait pas être en vigueur, et le mode de scrutin ne serait pas en vigueur pour la prochaine élection, mais l'élection suivante. Mais ça serait au moins un héritage qui sauverait un peu leur honneur, parce que pour le moment, ils sont dans le déshonneur total.
Jean-Pierre Charbonneau, président du mouvement Démocratie Nouvelle, on en a beaucoup parlé au cours des dernières années de réforme du mode de scrutin, mais j'ai l'impression que pour bien du monde qui nous écoute présentement, ça reste plutôt abstrait. Si je vous disais que je vous donne la tribune là, pour embarquer du monde dans votre bateau puis informer les gens pour dire à quel point c'est important, qu'est-ce que ça apporte de positif, le mode de scrutin qui deviendrait le nouveau, pouvez-vous nous vulgariser ça?
Ben écoutez, ce que ça apporterait, ça serait un Parlement qui représenterait finalement les différentes tendances politiques selon les appuis qui sont obtenus et donnés par la population. Par exemple, aux dernières élections, le Parti conservateur a eu à peu près le même vote que le PQ, Québec solidaire ou que les libéraux en 1% ou 2% près, les 0 députés. Alors que les libéraux ont eu 25 députés et que le PQ en a eu 3. Alors, le résultat de ça, c'est qu'on a un déséquilibre et une représentation distorsionnée de l'Assemblée nationale, puis on a un gouvernement qui gouverne avec à peu près 40-41% de l'appui populaire, alors que la majorité des gens ont voté contre. Donc, ce que ça donnerait, ça serait dans l'avenir un Parlement et donc un gouvernement qui devrait représenter une majorité de la population. Et pour faire ça, ben, s'il faut faire des alliances avec un ou deux autres partis, ben, ce serait ça la politique. Ça marche dans la plupart des pays où il y a des modes de scrutin de type proportionnel. Puis dans le cas qui nous occupe, c'est un mode de scrutin mixte. C'est-à-dire une partie des députés continuerait d'être élus comme c'est le cas actuellement, mais l'autre partie serait élue en fonction de l'appui que les citoyens donnent aux différents partis. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, quand vous regardez le résultat électoral, le soir des élections, vous avez l'impression, la dernière fois, par exemple, c'était ça, que le Québec était mieux part à peu près partout. Parce que, finalement, ils avaient remporté un nombre majoritaire de sièges avec le système actuel. La réalité, c'est que dans chaque région du Québec, il y a une pluralité du choix politique. Autrement dit, tout le monde ne vote pas la CAQ, ou tout le monde n'a pas voté la CAQ dans la plupart des régions du Québec. Dans le West Island à Montréal, tout le monde n'a pas voté libéral. Dans d'autres régions, tout le monde n'a pas voté PQ. Et dans certains coins de Montréal, tout le monde n'a pas voté Québec solidaire. Alors, ce qui est important, c'est que les gens aient la conviction, et puis au niveau des régions, que les différents votes comptent. Autrement dit, notre slogan depuis des années, c'est que chaque vote doit compter. Et que dans chaque région du Québec, il y a une pluralité d'opinions politiques. Il faut que ça soit représenté au Parlement. Ça veut dire que dans la plupart des régions du Québec, idéalement, il devrait avoir des députés de plus qu'un parti politique ou deux partis politiques pour que la réalité du vote et la volonté des citoyens se retrouve représenté au Parlement. Autrement, ce n'est pas une démocratie représentative. On dit qu'on vient en démocratie représentative, mais pour que le mot ait un sens, il faut que ça s'inscrive dans la réalité lorsque on se retrouve au Parlement avec des députés qui représentent différentes tendances politiques. On est dans une époque où tout le monde, il n'y a plus un système de deux partis. Alors, à partir du moment où il y a 4-5 partis qui ont plus que 10% du vote, Mais il faut avoir un système électoral qui soit adapté à cette réalité-là. Puis il faut que la culture politique, les gens souhaitent que les partis collaborent plus ensemble. Bon, mais si c'est ça que les gens veulent, et je pense qu'ils ont raison de vouloir ça, bien, il faut que le système électoral puisse produire ce résultat-là et pas se retrouver avec un système qui date du 18e siècle. Tu sais, notre système date de 1792. Ça, ça a été mis en place en Angleterre à l'époque coloniale et aristocratique où il y avait juste deux partis. Puis en plus, bon, à cette époque-là, il y a bien du monde qui n'avait pas le droit de voter, là.
En terminant, M. Charbonneau, évidemment, j'imagine que tous les modes de scrutin ont quand même leurs petits défauts. Là, dans ce cas-là, de celui que vous proposez, le proportionnel mixte, est-ce que ce serait qu'il y a quelques régions, circonscriptions qui se retrouveraient avec des députés d'un parti pour lequel ils n'ont pas voté, si je comprends bien comment on diviserait les choses?
Bien, actuellement, c'est ça que vous retrouvez comme résultat. Une bonne partie des citoyens se retrouvent avec des députés dans la plupart des régions du Québec pour lesquelles ils n'ont pas voté. Alors, on se retrouverait à ce moment-là dans une situation où plus de gens qui auraient voté pour des partis différents sentiraient qu'ils sont confortables et que leur vote a compté. C'est ça qui changerait fondamentalement. Et puis, quand on regarde comment ça fonctionne, ben, en Allemagne, en Écosse, moi, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas plus d'élections générales, il n'y a pas plus d'insécurité, il n'y a pas plus d'instabilité. Au contraire, il y en a moins, mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'on a une culture politique qui fait en sorte que les partis sont obligés de collaborer beaucoup plus avec un résultat qui est beaucoup plus intéressant pour les citoyens. C'est pas compliqué, ça. D'avoir un système. Écoutez, pourquoi les Allemands sont capables, depuis 1946-47, de fonctionner avec ce système-là, les Écossais, les Néo-Zélandais, puis nous autres, on ne serait pas capables? Parce que ça serait plus compliqué. C'est pas plus compliqué. Au lieu d'avoir un bulletin de vote, on aurait deux bulletins de vote, on choisirait à la fois un député local puis un député régional. Et puis, en général, ben, finalement, la dynamique ferait en sorte que il y aurait une compensation, donc que les gens se retrouveraient avec plus de partis qui seraient représentés à l'Assemblée nationale de façon juste. Encore une fois, quand trois partis ont à peu près le même score, un à zéro député, l'autre en a trois, puis l'autre en a 25, est-ce que vous trouvez ça normal et équitable et juste? Et comment et c'est frustrant pour les citoyens qui se retrouvent dans cette situation-là. Tous les gens qui ont voté pour le Parti conservateur aux dernières élections, il n'y en a pas un qui n'y a pas un député qui les représente actuellement à l'Assemblée nationale. C'est pas de bon sens, ça.
Jean-Pierre Charbonneau, ancien élu péquiste, président du mouvement Démocratie Nouvelle, qui publie dans la presse Réforme du mode de scrutin. Il y va de la qualité de notre démocratie. Monsieur Charbonneau, merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine. Au retour, on reste dans la politique provinciale. On jase avec Émilise Lessard-Terrien, ex-députée de Québec solidaire, chroniqueuse au journal, qui publie ce matin une chronique titrée « Bernard, lâche-nous avec le gouvernement des régions ». Mais d'abord, ça vient tout juste d'entrer, Charles Milliard, candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, reçoit officiellement l'appui de Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil, au sein de son équipe. On dit qu'il l'accueille au sein de son équipe. Ce que ça veut dire, c'est que Charles Milliard, sans trop de surprise, a maintenant tous les appuis du caucus de députés libéral qui ne sont pas des officiers, parce que les officiers, là, ceux qui ont comme des titres en ce moment chez les libéraux parmi les députés, ne peuvent pas donner leur appui à un candidat ou à un autre. Au Parti libéral, tous les députés qui ont le droit d'appuyer quelqu'un dans la course à la chefferie, ils ont donné leur appui à Charles Milliard, sans trop de surprise. On va aller entendre Christine Fréchette, qui risque de se porter candidate à la chefferie de la coalition Avenir Québec.
Donc, vraiment très touchée, je leur en suis vraiment reconnaissante là, de ces appuis. Maintenant, il faut voir que la décision qui est en cours, pour moi, elle n'est pas que personnelle, elle est collective également. Alors, je chemine dans ma réflexion. Et ce qui m'aide à cheminer, c'est que je parle, j'échange avec mes collègues, je prends le pouls de la situation, comment eux voient les choses, quelle est leur lecture à eux, qui voudraient voir être mis de l'avant dans le cadre de cette transition, qui est d'impact pour le Québec, qui est aussi en plus de notre parti.
Christine Fréchette, qui a reçu ce matin l'appui supplémentaire de Catherine Champagne-Jourdain, une ministre de la CAQ, et on nous dit que dans les prochaines heures, Yann Lafrenière et France-Hélène Duranceau pourraient l'appuyer aussi. Simon-Jolin Barrette se dit toujours intéressé et en réflexion. Même chose pour Bernard Drainville, qui est toujours en réflexion, alors qu'Éric Girard, le ministre des Finances, passe son tour pour la course à la chefferie. Toutefois, il sera candidat pour la CAQ aux prochaines élections.